Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous allons voir aujourd'hui le magnifique exemple du pardon de Joseph à ses frères, mais comme il n'est pas possible de pardonner à quelqu'un qui n'a pas la contrition, nous allons voir comment Joseph travaille à leur donner la contrition de leur faute, comment même il leur offre déjà un début d'expiation, et cela afin de pouvoir les pardonner. Et si je vais consacrer tout un sermon à cette question, à ce magnifique exemple, c'est parce qu'on a là-dessus des idées très fausses. On confond très souvent amour des ennemis, puisque le Christ a demandé d'aimer non seulement nos amis, mais aussi nos ennemis. On confond très souvent amour des ennemis et pardon. Et on croit très souvent que, au nom de l'amour des ennemis, le Christ nous demande de pardonner même à celui qui ne nous demande pas pardon. Mais si on réfléchissait une deux minutes, on verrait tout de suite que Dieu ne pardonne pas à celui qui ne demande pas pardon. Non seulement le pécheur doit demander pardon pour être pardonné de Dieu, mais il doit également avoir la contrition. Un pécheur qui demanderait pardon sans avoir la contrition, avec le ferme propos d'ailleurs, ne serait pas pardonné de Dieu. Alors, en quoi consiste l'amour des ennemis? Il y a deux manières d'aimer quelqu'un. Tout d'abord, l'amour d'amitié, avec quelqu'un qui est bon et avec lequel nous avons des qualités en commun. Et deuxièmement, l'amour de bienveillance, lorsque nous cherchons à faire du bien à quelqu'un. En ce qui concerne les ennemis, il ne s'agit évidemment pas de l'amour d'amitié, parce qu'on ne peut pas avoir d'amitié pour un ennemi. C'est contradictoire. Il s'agit donc nécessairement de l'amour de bienveillance. Quel est le bien que nous devons vouloir à notre ennemi? C'est évidemment qu'il rentre dans l'amour de Dieu, qu'il se convertisse. Cet amour est absolument nécessaire. Il va avec la charité, avec l'amour de Dieu, il en est indissociable. Il est impossible d'aimer Dieu et de ne pas souhaiter que le pécheur se convertisse. Mais il faut aller plus loin. Quand quelqu'un est dans le besoin, c'est une obligation pour nous de répondre à ce besoin si personne d'autre ne peut le faire à notre place. Si quelqu'un peut le faire à notre place, très bien, nous n'avons pas l'obligation. Mais quand quelqu'un est dans la nécessité, c'est ce que dit saint Thomas, lorsque quelqu'un est dans la nécessité et que nous sommes les seuls à pourvoir à cette nécessité, la charité nous oblige à ce moment-là à y pourvoir. On voit donc que la charité qui nous oblige à l'amour des ennemis nous oblige à travailler à leur salut. Pour cela, et c'est ce que va faire Joseph, c'est ce que fait d'ailleurs notre Seigneur envers nous, pour travailler à leur salut, il faut travailler à ce qu'ils obtiennent la contrition de leur faute et à ce qu'ils réparent. On appelle cela la correction fraternelle, et c'est une des œuvres de miséricorde spirituelle, pardonner les offenses. Mais vous aurez remarqué que pardonner les offenses est une œuvre de miséricorde spirituelle qui suit les premières œuvres de miséricorde spirituelle, à savoir enseigner la vérité, donner des bons conseils, corriger les pécheurs. La troisième œuvre de miséricorde spirituelle, c'est corriger les pécheurs. Et c'est quand le pécheur est corrigé qu'on peut alors lui pardonner. Et pour en finir avec la théorie avant de passer à l'application pratique chez Joseph, l'amour des ennemis qui nous oblige à travailler à leur conversion nous oblige quelquefois à des bienfaits autres et inférieurs au salut de l'âme en vue d'obtenir le salut de l'âme. C'est ainsi qu'une de nos fidèles, en Alsace, m'a raconté qu'une famille protestante était tombée dans la disette, et malheureusement, le pasteur protestant ne leur offrit aucun secours. Et ce sont donc des catholiques, et particulièrement le prêtre catholique de la paroisse, qui vint au secours de ces protestants. Et avec beaucoup de délicatesse, il ne travailla pas ouvertement à les convertir, ce qui était prématuré, et ce qui aurait pu paraître à leurs yeux intéressé, il se contenta de subvenir à leurs besoins. Et ce n'est qu'au bout d'un certain temps que ces gens, comprenant l'attitude du prêtre catholique et la comparant avec l'attitude du pasteur protestant, ont reconnu que cette bienveillance du prêtre venait de sa charité, c'est-à-dire de l'amour de Dieu, c'est-à-dire du Christ crucifié, c'est-à-dire également de la grâce que le Christ communique à ses amis, et c'est alors que ils décidèrent de se convertir et se firent catholiques. Nous avons donc Joseph, qui est une figure du Christ, il y a une grande ressemblance évidemment entre Joseph et le Christ, qui a été mis en esclavage par la providence de Dieu pour le salut de ses frères, et des Égyptiens également. C'est ce qu'il déclarera plus tard ouvertement. « Ne vous inquiétez pas, tout ce qui est arrivé m'est arrivé pour votre salut. » Comme le Christ s'est fait esclave, mais je vous en ai parlé la dernière fois, s'est fait esclave et a offert sa vie pour notre salut. Joseph, cependant, attend une occasion providentielle. Il aurait certes pu se rendre en Palestine à la rencontre de ses frères, mais ça, ça aurait été une grosse erreur, parce que justement on ne peut pas convertir de force, et parce qu'on ne peut pas pardonner à quelqu'un qui ne demande pas pardon, comme je viens de vous l'expliquer. Donc Joseph, inspiré par le Saint-Esprit, il attend la Providence. La Providence lui offre cette occasion, puisque ses frères viennent en Égypte acheter du blé à cause de la famine. Il les reconnaît, mais eux ne le reconnaissent pas. Pourquoi ne le reconnaissent-ils pas? Peu importe, soit parce qu'ils n'ont aucune idée que le vice-roi d'Égypte puisse être leur frère, soit parce que Joseph est habillé maintenant à la mode égyptienne, soit parce que le Saint-Esprit ne permet pas qu'ils le reconnaissent. Et quand Joseph voit ses frères, évidemment, ses entrailles sont émues. Mais il se garde bien de se laisser aller à un sentimentalisme qui gâcherait tout, parce que il n'obtiendrait pas la contrition, ni la demande de pardon, ni la réparation. Et donc Joseph va les traiter avec dureté. Comme le fait notre Seigneur Jésus-Christ quand il nous éprouve. Donc Joseph accuse ses frères d'être des espions. Comment voulez-vous vous défendre devant une accusation pareille faite par le vice-roi d'un pays? Nous ne sommes pas des espions. Ben, prouvez-le. Mais avant d'être dur avec eux, de les punir, il veut savoir quels sont leurs sentiments, notamment ce qu'il est advenu de Benjamin, le petit dernier, qui est le petit frère de Joseph, né de Rachel comme lui. Ses frères ne lui ont-ils pas fait un mauvais sort comme ils l'ont fait à Joseph? Et on pourrait le craindre puisque les frères sont venus, sauf Benjamin. Parce que Benjamin est la grande consolation de son père après la perte de Joseph, mais cela, Joseph justement veut en avoir la preuve. Donc il arrive à ses fins en les faisant parler. Et ses frères lui disent « Mais non, nous sommes d'honnêtes pasteurs de troupeaux, nous sommes 12 frères, il y en a un qui est mort, et puis il en a un autre qui est près de notre père. » « Ah, dit Joseph, eh bien c'est bien la preuve que vous êtes des espions. Si vous étiez honnêtes, vous seriez venus tous les 11. Alors vous allez m'amener Benjamin, et puis quand je l'aurai vu, alors à ce moment-là, vous pourrez me demander du blé. » Et ce faisant, il décide de les mettre en prison. Les pauvres s'attendent à être mis en prison sine die, comme on dit, c'est-à-dire sans qu'il y ait une échéance. Mais au bout de 3 jours, Joseph estime qu'il aura suffisamment fait peur, et il leur dit, bah, écoutez, vous allez rentrer chez votre père, vous allez me ramener votre Benjamin, mais moi je garde Siméon ici, en prison, j'en garde un, parce que j'ai besoin d'avoir un otage, tout simplement. Il donne l'ordre de remplir les sacs de blé, et il donne l'ordre également de remettre dans les sacs l'argent qu'ils avaient remis en paiement du blé. Les frères de Joseph arrivent chez Jacob, ils racontent tout ce qui s'est passé. C'est absolument extraordinaire. J'ai rarement vu un récit aussi simple, compréhensible par des enfants, et en même temps aussi noble. On s'y croirait, on se croirait vraiment dans l'attente de Jacob à entendre ses fils qui lui parlent. Il raconte tout ce qui s'est passé, qu'il faut ramener Benjamin, et puis ils sont stupéfaits de constater que dans les 9 sacs, se retrouve l'argent. Jacob leur dit, il n'est pas question que je me sépare de Benjamin, vous restez ici. Oui, mais la famine se prolonge. Les fils disent à Jacob, il est temps que nous allions chercher du blé. Jacob leur répond, pas question, je vous l'ai dit, Benjamin ne me quittera pas. Et puis on arrive à un stade où ce n'est plus la famine, il n'y a plus rien à manger, et les frères disent à Jacob, écoutez, il faut que nous y allions. Très bien, dit-il, mais sans Benjamin. Non, ce n'est pas possible, vous savez très bien que ça va être un échec. Le seigneur de ce pays, le vice-roi, qu'ils appellent constamment seigneur, le seigneur de ce pays nous a dit que nous ne pourrions pas paraître devant lui si nous n'amenions pas notre frère. Jacob dit, écoutez, j'ai perdu Joseph, j'ai perdu Siméon, je ne vais pas en plus maintenant perdre Benjamin. Et puis finalement, il est bien obligé de céder. Nos 9 frères arrivent donc en Égypte, ils apportent de l'argent, mais le double, parce qu'ils rapportent l'argent qu'ils avaient trouvé dans les sacs. Jacob leur a dit, rendez cet argent qui n'est pas à vous, et puis en plus vous allez apporter à ce seigneur les plus riches présents que vous pourriez leur offrir. Il y a certainement des aromates et d'autres choses précieuses. Lorsqu'ils arrivent en Égypte, ils ne sont évidemment pas reçus directement par le vice-roi, ils sont reçus par un intendant, et aussitôt ils disent, ah, Seigneur, nous rapportons l'argent, parce que la dernière fois, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais nous avons retrouvé l'argent dans les sacs, alors nous venons racheter du blé, et nous allons payer, mais nous rendons l'argent de la première fois. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que, et c'est très important, lors de la première épreuve, lorsque Joseph les accuse d'être des espions, et puis les met en prison, puis finalement garde Siméon en prison, ils disent entre eux, c'est justement que nous souffrons tout cela, parce que nous avons péché contre notre frère, et que, voyant l'angoisse de son âme lorsqu'il nous implorait, nous ne l'avons pas écouté. C'est pour cela que nous sommes tombés dans cette affliction. Et Ruben ajoute, je vous l'avais bien dit, ne commettez pas un si grand crime contre cet enfant. Vous ne m'avez pas écouté. C'est son sang maintenant que Dieu nous redemande. Et ils ne savaient pas que Joseph les comprenait, parce que Joseph avait pris soin de parler avec eux à travers un interprète. La conscience les mord, parce que cela fait des années et des années qu'ils voient l'affliction de Jacob, leur père, et bien qu'ils n'aient toujours pas avoué leur crime, et donc encore moins demander pardon, ils voient bien l'affliction de leur père et ils ne peuvent pas oublier ce qu'ils ont fait à leur frère Joseph. Nous voyons que le traitement de Joseph a été efficace, puisque Judas s'est porté garant de son frère Benjamin auprès de son père, et il s'offre à souffrir un châtiment de la part de son père si jamais, par malheur, il ne ramenait pas Benjamin. Je raccourcis parce que j'approche des 20 minutes que je me suis fixé. Joseph est tout heureux de voir Benjamin, il libère Siméon, il donne du blé à tout le monde, mais il donne l'ordre de mettre une coupe précieuse dans le sac de blé de Benjamin, une coupe précieuse qui lui est personnelle et à laquelle il tient beaucoup. Ses frères partent, et dès qu'ils sont partis, Joseph envoie son intendant à leur suite en les accusant de vol. Les autres disent « Mais non, on n'a pas volé. Fouillez-nous, vous verrez bien, si vous trouvez une coupe dans nos affaires, eh bien, le coupable, qu'il soit puni de mort. » Et l'intendant dit « Non, ça suffira, il sera mon esclave. » L'intendant commence par le plus âgé, il ne trouve rien, les suivants, il arrive au sac de Benjamin, et là, on trouve la coupe. Alors tout le monde revient en Égypte pour essayer de se disculper. Ce n'est pas de notre faute, nous n'y sommes pour rien. Joseph les avait très bien traités la deuxième fois. Il avait fait pour eux un festin, ils avaient eu le droit de manger en sa présence. Donc ils sont persuadés qu'il y a là un malentendu et qu'on arrivera à le dissiper. Malgré tout, ils sont très inquiets. Joseph estime que maintenant l'épreuve est suffisante et il se fait reconnaître. Parce qu'il a vu leur bonne disposition, parce qu'il a vu l'amour qu'ils portaient à leur père, le respect pour leur père. C'est peut-être encore une contrition imparfaite, mais justement, il va suffire d'un tout léger coup de pouce pour que cette contrition devienne une contrition parfaite. Ce petit coup de pouce, Joseph le donne ainsi. Judas lui parle. « Que répondrons-nous à mon Seigneur ? Que lui dirons-nous ? Que pouvons-nous lui présenter avec quelque ombre de justice pour notre défense ? Dieu a trouvé l'iniquité de vos serviteurs. Nous sommes tous les esclaves de mon Seigneur, nous et celui chez qui on a trouvé la coupe. » Là, ils se rendent bien compte que Dieu les éprouve, ils acceptent la peine. Joseph répondit avec beaucoup de bonté, « Dieu me garde d'agir de la sorte, que celui qui a pris ma coupe soit mon esclave, et pour vous, allez en liberté et retrouvez votre père. » Judas, alors, s'approche de plus près de Joseph et il lui dit, « Monseigneur, je vous prie, permettez à votre serviteur de vous adresser la parole. Nous avons un père qui est âgé, et un jeune frère qu'il a eu dans sa vieillesse, dont le frère qui était né de la même mère est mort, c'est Joseph. Il ne reste plus que celui-ci, et mon père l'aime tendrement. Vous dites à vos serviteurs, amenez-le-moi. Nous l'avons amené. » Il fait une plaidoirie un peu plus longue que j'abrège, et il termine, « Si je me présente donc à mon père, et que l'enfant n'y soit pas, comme sa vie dépend de celle de son fils, lorsqu'il verra qu'il n'est point avec nous, il mourra. Et nous, vos serviteurs, nous accablerons sa vieillesse d'une douleur qui le mènera au tombeau. Que je sois donc plutôt, moi, votre esclave, puisque je me suis rendu caution de cet enfant et que j'en ai répondu à mon père. Je demeurerai votre esclave, je servirai à la place de l'enfant, afin qu'il retourne avec ses frères. Car je ne puis pas retourner vers mon père sans que l'enfant soit avec nous, de peur que je ne sois moi-même témoin de l'extrême affliction qui accablera notre père. » Là, Joseph se rend bien compte que le cœur de ses frères a complètement changé, et Judas répare, parce qu'il ne sera pas esclave, n'empêche qu'il s'offre à être esclave. Il a vendu Joseph en esclavage, et maintenant il se propose d'être esclave pour sauver le petit frère de Joseph. Alors Joseph se fait reconnaître, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour qu'il soit conduit en Égypte. Ne craignez point, ne vous affligez pas de ce que vous m'avez vendu pour être conduit dans ce pays, car Dieu m'a envoyé en Égypte avant vous pour votre salut. » Et c'est extraordinaire, parce que s'il y en a un qui devrait être affligé, c'est Joseph. Et Joseph retourne la situation, il dit « Ne vous affligez pas de ce que vous m'avez vendu. » Joseph donne des ordres pour que ses frères rentrent en Palestine, il leur donne des chariots pour ramener leur père, il leur dit de ramener également toute la famille, les épouses, les enfants, il les bénira. C'est une résurrection pour Jacob. Lorsque tout le monde arrive, Jacob fait avertir Joseph. Celui-ci fait atteler un char. Il se précipite au-devant de son père. Puis il introduit toute sa famille auprès de Pharaon. Et Pharaon, plein de reconnaissance pour son vice-roi, lui dit d'établir sa famille dans la plus belle terre d'Égypte. Le pardon donné par Joseph n'aurait pas pu être si complet et si parfait si Joseph n'avait pas d'abord travaillé à retourner le cœur de ses frères et, comme le dit l'Écriture sainte, à remplacer leur cœur de pierre par des cœurs de chair. C'est ce que fait notre Seigneur avec nous, et c'est ce que la très sainte Vierge Marie, particulièrement à Fatima, nous demande de faire avec notre prochain, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.